Donc d'abord, juste pour regarder en tant qu'étape, en fait, la mort spirituelle et la renaissance spirituelle représentent ce qu'on appelle dans la tradition l'entrée dans le courant. C'est le moment où, et là, pour le situer en tant que karma niyama, dharma niyama, pour retrouver les processus qui nous a accompagnés tout le long de ce trajet jusqu'à présent, c'est le moment où on passe, si vous voulez, de juste travailler avec le dharma niyama, le karma niyama, les processus du karma, pour nous laisser porter par les processus de dharma niyama, les processus de les forces d'éveil dans le monde, les processus du dharma, de la réalité, qui nous tire vers le haut et qui commence à ce moment-là, au moment de l'entrée dans les courants, à être prédominante. Et en fait, ça évoque bien ça, cette idée d'entrer dans le courant. Jusqu'à présent, on a nagé pour traverser un grand fleuve, et en fait, on est un peu contre-courant tout le temps, et ça demande un effort. On est toujours en train d'essayer de nous aligner avec la réalité, mais il y a toujours des parties qui ne sont pas encore là, qui ont besoin d'être rattrapées. Qu'on a besoin d'unifier, d'intégrer. Et puis, tout d'un coup, c'est comme si, tout d'un coup, nous nous trouvons dans le courant et nous sommes portés par le courant. On n'a plus besoin de ramer, de nager, de faire un grand effort. Et c'est là ce moment décisif de la vie spirituelle où, d'une certaine manière, la mort spirituelle et la renaissance spirituelle se passent vraiment. C'est là, en tant qu'étape, en tant que moment important. Et l'entrée dans le courant, c'est le moment où c'est dit normalement que notre progrès et nos progrès vers l'éveil sont assurés. On va y arriver. Tôt ou tard, on va y arriver. Et normalement, c'est dit qu'on va y arriver dans au moins, pas plus que 7 vies, dans le sens de renaissance. Donc on ne va plus renaître plus que 7 fois. Donc avec l'effort, on peut y aller plus vite. même si on arrête de faire trop d'efforts à ce moment-là, on va y arriver. Oui, c'est un moment important dans la vie spirituelle. Et une autre façon de décrire cette étape, c'est en termes des entraves. Il y a traditionnellement 10 entraves. Ce sont 10 vues fausses en quelque sorte. Ce sont 10 façons de voir les choses, 10 façons d'agir qui nous entravent dans notre vie spirituelle, qui nous empêchent d'être éveillés. Je vous donne la liste, mais ça ne veut pas vous dire grand-chose, mais je le fais parce que c'est rare qu'on entende la liste entière, en fait. On parle toujours des 3, et c'est ça que je vais faire encore aujourd'hui, parce que c'est en brisant les premières 3 entraves qu'on entre dans le courant. Mais juste pour vous donner une idée du chemin à parcourir, la première, c'est la vue de la personnalité, ou la croyance dans un soi. En sanskrit, c'est Satkaya Drishti. Drishti, c'est vue, c'est vision. Kaya, c'est corps. Et Sat, c'est soi. Donc c'est une vision d'un corps qui est notre soi, en quelque sorte. Je ne vais pas pouvoir vous traduire tous les mots en sanskrit, mais je vais le donner quand même parce que ça peut être intéressant. Donc ça, c'est la première, la vue de soi. Et puis le deuxième, c'est le doute sceptique. Je vais en revenir un petit peu. C'est le doute, l'indécision, l'incertitude, ce qui nous empêche de nous engager sur le chemin. Vichikitsa. Et puis le troisième, c'est l'attachement aux règles morales ou éthiques et aux pratiques religieuses comme des fins en soi. C'est un peu la superstition, si vous voulez, la superficialité. Et ça, c'est Silavrata Paramarsha. Et puis le quatrième, c'est le désir d'une existence sensuelle, Kama Raga. C'est pas le même mot que karma, avec un R, c'est Kama, K-A-A-M-A. Et raga, c'est désir. Et c'est vraiment un mot très puissant, un désir très puissant. Je sais pas ce que... Ouais, c'est un... Je crois qu'il n'y a pas une... une espèce de désir passionné, en fait. Un désir très fort pour un sens, un vie sensuelle. Vie à une existence sensuelle. Et puis après ça, il y a l'animosité, la colère, l'aversion, vyapada. Donc en fait, là, on trouve les deux des trois poisons qui sont au cœur de la haut de la vie. Donc on voit que quand même, les trois poisons, on a du travail pour aller au-delà des trois poisons, parce qu'on les retrouve là, après les trois premières entraves. Le sixième, c'est aussi un désir d'existence, c'est aussi un raga, un désir fort. Mais là, c'est le désir de l'existence dans le monde de la forme. Et là, on trouve dans le bouddhisme, il y a trois niveaux d'existence. Il y a le monde sensuel, le kamaloka, là où on vit nous-mêmes, donc avec pas des sens physiques assez grossiers où on vit par la toucher, la vue, l'entendu et tout ça. Et puis au-dessus de ça, il y a le rupaloka, le monde de la forme, et en fait le monde de la forme subtile, et c'est là où selon le bouddhisme existent les devas, les autres êtres sans forme grossière comme la nôtre. Et apparemment avec la pratique, et probablement avec la pratique des dhyana et des états d'esprit plus élevés, on commence à développer un désir de renaître dans ces mondes-là. Peut-être on commence à avoir une certaine aversion pour la grossière, la nature grossière de cette existence, avec les bruits forts et tout ça. Et on commence à songer à une existence plus raffinée. Donc voilà, ça c'est la sixième entrave. Et puis au-delà du rupa aloka, il y a ce qu'on appelle le arupa aloka, où il n'y a plus de forme. Donc ça, c'est des êtres qui existent sans forme. Et le septième entrave, c'est le désir de l'existence dans ces mondes sans forme. Donc je vous laisse imaginer ce que ça peut être. Mais on entend parler des êtres qui vivent juste par les parfums, par exemple. Donc voilà. Mais ça, sinon, je crois que ça, c'est encore... avec une forme subtile. Donc voilà, je n'ai pas trop, exploré tout ça pour l'instant. Je suis déjà assez attachée au monde des sens moi-même. Donc, et après ça, il y a le huitième, c'est la vanité. Je crois que c'est aussi l'orgueil. Je suis pas sûre. Le mot en parlait c'est mana. Donc c'est la vanité, l'orgueil. Le neuvième, c'est l'instabilité, le tremblement, anudatya. Je ne peux pas vous dire grand-chose sur celui-là. Et puis le dixième, c'est l'ignorance. Donc voilà, on trouve le troisième poison et voilà la racine de tout. Donc voilà, ça reste un peu abstrait, un peu vague. C'est pour ça que j'imagine qu'on n'y va pas trop souvent. Mais les trois premiers sont très accessibles et très intéressants en fait. Et je crois qu'on peut très bien les voir. En fait, on peut très bien voir les autres aussi à l'œuvre dans notre vie. Mais c'est pas pour rien que les trois premiers sont les moins importants du point de vue pour de l'entrée dans le courant. Donc, je vais revenir sur ces trois-là. Donc, d'abord, la vue de la personnalité, la Satkaya Drishti. C'est la vue de soi, l'idée que nous avons qu'il existe un moi séparé du reste du monde. C'est notre habitude de penser en termes de je, de moi, de mien. Et en fait, je vais revenir encore à celui-là, donc je vais juste laisser encore en parenthèse pour parler un petit peu de... Parce que c'est ça celui qui est le plus important, le plus axiomatique en fait ce que je veux dire sur la mort spirituelle, mais qui entraîne avec lui, avec elle, le doute sceptique, vichikitsa. Alors, je veux juste faire une distinction, parce que le doute, c'est pas forcément une mauvaise chose. On a besoin de questionner dans la vie spirituelle. Le Bouddha lui-même a encouragé le questionnement. Il faut qu'on comprenne ce qu'on entend pour nous-mêmes. Il n'y a pas d'article de foi dans le bouddhisme. Il n'y a pas de dogme. On ne demande pas aux gens qui veulent pratiquer de croire sans y réfléchir. Donc je ne parle pas de ce genre de doute qui nous fait dire « Mais est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que c'est vrai dans mon expérience? Est-ce que je comprends pleinement ça? Comment est-ce que je peux faire pour mieux examiner, mieux comprendre ?» Ça, c'est important. Le doute dont je parle, et c'est pour ça qu'on ajoute le mot « sceptique », c'est ce doute qui dit « De toute façon, je ne suis pas sûre que c'est vrai là, ou est-ce qu'il y avait vraiment quelqu'un qui a atteint l'éveil ? Et moi, est-ce que je peux vraiment, je suis nulle de toute façon, comment est-ce que je vais jamais pouvoir le faire moi-même ?» C'est cette petite voix derrière, quelque part, qui est toujours en train de dire « Oui, mais, quand même, c'est pas vraiment possible, t'exagères là. » qui nous empêche de nous engager, surtout, c'est ça. Qui nous empêche de vraiment nous engager. C'est la partie qui dit, est-ce que c'est vraiment la peine? Je suis pas sûre de toute façon que la méditation marche. Peut-être je vais quand même... je vais essayer un petit peu, et puis je vais aller arrêter. Je vais faire... Cette petite... les doutes qui sont juste là, c'est une habitude. Et je crois que c'est une habitude qui est trop encouragée dans notre société de nos jours. Je crois que le scepticisme est vraiment trop valorisé. En fait, c'est même vu comme une espèce de sagesse. Quand on entend les gens... de toute façon... c'est une façon de se montrer sage et je connais mieux que tout le monde, mais en fait non. C'est juste c'est ça qui nous empêche de vraiment mettre notre cœur dans ce que nous faisons. Donc voilà, à un moment donné, il faut dépasser ça si on veut vraiment s'engager dans la vie spirituelle. Et puis le troisième, c'est l'attachement aux règles et aux rituels comme fin en soi. Et ça, c'est une vision limitée et superstitieuse de ce que c'est la pratique spirituelle. Et c'est subtil, celui-là. C'est là où on pense que si vraiment... Il y a une partie de nous qui pense, si je fais l'attention sur le souple avec toutes les étapes, exactement comme on a dit de faire avec 5 minutes par étape, c'est ça qui est important. Il faut absolument que je fasse ça tous les jours. Et si je fais pas ça, ça va pas marcher. Et si on m'empêche de le faire, je vais être anxieuse parce que ma vie spirituelle va pas marcher. Qui croit que vraiment allumer une bougie devant l'autel, ça, c'est ça qui va faire toute la différence. C'est le monde de religions superstitieuses, des cultes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'importance dans certains de ces actes, mais c'est l'état d'esprit derrière qui est important. On peut subtilement se trouver dans un état où on est juste en train de... On dit en anglais « going through the motions ». Comment on dit ça en français? On fait les choses un peu, d'une façon un peu vide, parce qu'il faut les faire, parce que je suis bouddhiste. Donc je médite le matin, je fais mon puja le soir, je lis un petit peu de ceci et cela, mais sans jamais qu'il y ait un désir profond de changer ou de faire quelque chose, de voir une signification dans ça. Vous voyez ce que je veux dire? Une espèce de... un train-train de pratique, où c'est le train-train de plus important que le sens de vraiment avoir. Et les trois sont intimement liés. Ça semble être trois choses séparées et distinctes, mais en fait ils sont intimement liés. Et surtout c'est lié à cette idée qu'il y a un soi, il y a un moi qui existe. Si nous croyons que nous existons en tant que moi fixe, séparé, indépendant, nous croyons qu'il devrait avoir à l'extérieur de ce moi quelque chose qui le rendrait heureux et satisfait. Donc c'est comme ça que nous vivons. Je suis là, j'ai besoin de ceci parce que je ne suis pas tout à fait heureuse et donc j'essaie de trouver ceci, et puis non, c'est pas tout à fait ça, mais je vais ajouter cela, et puis oh non, j'ai changé ça, et puis on est toujours en train de chercher à l'extérieur pour satisfaire ce moi. Et comme ça ne marche pas, constatons que ça ne marche pas, nous tournons d'une chose à l'autre, goûtons toujours, tôt ou tard, cette insatisfaction, insatisfaction qui fait partie de la nature des choses. Ce qui nous mène, en fait, je crois que c'est ça qui nous mène vers le doute et le scepticisme. Et en fait, je vois, d'une certaine manière, dans notre monde d'aujourd'hui, il y a de plus en plus de possibilités fausses pour nous satisfaire. Il y a de plus en plus de diversions, de plus en plus de choses à acheter, à goûter, à manger, à faire, à expérimenter. Et en fait, ça ne peut que renforcer notre scepticisme parce qu'on les essaie tous et on trouve encore et encore l'insatisfaction. Donc, ce n'est pas étonnant qu'il y a autant de doutes, en fait, et de scepticisme dans nos jours. Je crois que on retrouve encore et encore l'échec et puis voilà, on commence à perdre un peu l'espoir. Et autrement, croyant que les choses sont fixes, séparées et non changeantes, nous nous attachons aux règles. C'est là où on commence à chercher des certitudes. Ben voilà, tout ça c'est changeant, ça marche pas, j'essaie de ramasser un peu de quelque chose qui va me rendre heureux et ça ne marche pas, donc je cherche quelque chose, des règles, des façons de faire, des rites, des rituels, on ramasse des rituels pour nous assurer face à cette expérience, cette nature d'expérience toujours changeante, et des sables mouvants en dessous de nos pieds. Et tout au fond de tout ça, comme j'ai dit tout à l'heure, et j'ai dit que j'allais revenir à la première entrave, le problème de base, c'est cette vue de personnalité, c'est le moi qui est là au fond de tout. Et en fait, j'avais envie d'aborder ça un petit peu avec vous, parce que je ne le fais pas très souvent. Et entend tellement de choses par rapport à ce moi, surtout on entend parler de l'ego qu'il faut détruire, ce moi qui n'existe pas. Et c'est tellement facile à prendre ça par le mauvais bout, à le mal comprendre. Et je veux insister qu'en fait, c'est normal qu'on a ce sens. Nous sommes construits comme ça. Nous avons cette forme physique avec son enveloppe corporelle qui nous sépare physiquement en quelque sorte. Du monde. Donc, c'est naturel qu'on a un sens. Ben voilà, je suis là, j'arrête là, et puis le reste commence. Et c'est naturel qu'on a ce sens-là. Et en fait, ça fait partie de la construction de notre être. Parce que nous avons les sens à travers nous rencontrons le monde. Ben, forcément, il y a quelque chose à l'intérieur qui voit ou qui entend ou qui goûte ou qui touche ou qui sent ce qui semble être à l'extérieur. D'une certaine manière, on ne va jamais complètement dépasser ça. Tant qu'on a un corps physique, on va toujours avoir à la base cette façon de voir les choses. Donc ce n'est pas mauvais. C'est pas méchant, c'est pas, on n'est pas des pêcheurs pour ça. C'est pas notre faute même. On est fait comme ça. On est arrivé dans le monde avec ça comme condition de notre existence. Et donc inévitablement, on construit notre monde avec deux pôles. Il y a moi ici, il y a le monde là, il y a les autres. Il y a l'intérieur de moi-même et il y a l'extérieur, tout ce qui est à l'extérieur de moi. Il y a ce qui est moi, ce qui n'est pas moi. ce qui est à moi et ce qui n'est pas à moi. Donc on commence à étendre cette idée de moi à des possessions, à des expériences que nous pouvons avoir. Donc on commence à ajouter des choses à ce sens de moi. Et il y a Même dans la méditation, on commence à voir qu'il y a forcément un observateur et ce qui est observé, que ce soit ce qui est écouté, ce que lui écoute. Et il y a, même si on essaie de se débarrasser d'une idée de moi, on se rend compte qu'il y a quand même quelque chose qui essaie de se débarrasser de ça. Toujours on revient à ce sens de moi. Et en fait, c'est une phrase qu'on a pour ça dans le bouddhisme, c'est la situation perceptuelle. Et c'est cela pour essayer de dire, c'est ça notre expérience, mais on n'est pas obligé de le vivre juste comme ça. Donc on essaie de l'objectifier un petit peu en parlant, c'est une situation perceptuelle où il y a un sujet et un objet. Il y a une expérience. Et en fait, en fin de compte, tout ce qu'on peut vraiment savoir, c'est l'expérience qui est au cœur de cette situation perceptuelle. Et le moi et l'autre, ou le sujet et l'objet, c'est inhérent à notre perception, mais on ne peut pas les connaître directement, d'une certaine manière, on ne peut pas les connaître l'un séparé de l'autre. Je ne vais pas trop parler tout cela, je vais rester dans l'expérience parce que c'est ça qui est le plus important. Mais en fait, donc, on a cette situation perceptuelle où il y a, par exemple, en ce moment, j'ai une expérience. De quelque chose devant mes yeux qui semble être lisse, solide, plat, qui semble être fait du bois, pourtant je sais que c'est du plastique, que j'appellerais un parquet. Mais en fait, tout ce que je sais de ça, c'est ce que je vois de ça juste ici et maintenant. Quand je suis partie du centre plus tard, je ne sais pas vraiment si le parquet est encore là, existe encore, ou quelle couleur, quelle taille, quelle forme il a. C'est mon mémoire qui me fournit tous ces détails si je veux les avoir. Et d'une certaine manière, si je commence à examiner vraiment clairement cette expérience, j'aurais du mal à dire vraiment où le parquet arrête et où moi je commence. Est-ce que c'est là où je peux le sentir? Est-ce que c'est là où ça entre dans mon œil? Est-ce que c'est quelque part dans le cerveau? Est-ce que c'est quelque part entre les deux? Et en fait, en fin de compte, tout ce que je peux connaître, c'est juste l'expérience de ce que je vois, avec les qualités de cette expérience. Mais parce qu'on est fait comme ça et parce qu'on a les habitudes depuis de très très longues dates, je m'appelle moi et je s'appelle ça un parquet et puis je sais pas. Et c'est important de pouvoir faire ça, sinon je sais pas de quoi sur quoi je marche, etc. Donc on a besoin de ça. Mais le problème, et c'est là où les problèmes commencent, c'est que nous prenons ça pour une réalité fixe. Je commence à avec un parquet, c'est moins grave, mais je commence à m'y fier, à croire que c'est vraiment quelque chose qui est là, qui va me soutenir, qui va être satisfaisant, qui va combler mes souhaits, etc. Et c'est là où les problèmes commencent. Donc en fait, le problème, c'est pas forcément le moi et l'autre. C'est l'interprétation que nous apportons à ça. C'est tout ce que nous ajoutons par-dessus. La fixité que nous y apercevons. Le fait que nous le prenons pour une vérité et que nous y fions. Et que nous agissons en fonction de cette vision erronée. Et donc la mort et puis la renaissance spirituelle en tant qu'étape représentent la fin de cette illusion et la libération de la souffrance que cette illusion nous apporte. Arrivé à ce stade-là, nous savons bien que c'est une illusion. Nous savons bien que je peux parler comme ça, mais je sais que ce n'est pas une réalité. Le Bouddha parlait toujours en tant que moi. Il disait que moi je suis le Bouddha, moi je suis éveillé. Mais lui, il savait de quoi il parlait. Il savait que ce moi n'était pas fixe. Il savait que ce moi n'existait pas vraiment. Mais il utilisait la langue que tout le monde utilisait pour pouvoir parler aux autres, pour pouvoir vivre dans le monde. Mais ce qu'il voyait derrière tout ça était complètement différent que ce que nous voyons derrière tout ça. Et c'est ça la différence. Donc avec la fin de l'illusion de moi, de soi, nous n'avons plus de doute et nous ne sommes plus attachés aux règles et rituels juste pour ramener aux autres entraves. J'imagine, si on a lâché ce moi, si on voit clairement comment les choses, on n'a plus cette insécurité qui cherche toujours la satisfaction et la rassurance dans les choses extérieures et dans les actions, des règles, des rituels et tout ça. Donc on est vraiment libéré de tout ça. Et ça me fait penser à cette ligne dans le Sutra du Cœur où le Bodhisattva libéré des obstacles illusoires, débarrassé de la peur nourrie par ceci. Et en fait, c'est ça, l'obstacle illusoire, c'est cette vision de moi fixe dans un monde des choses fixes, et toute la peur et les autres émotions qui viennent avec ça. Donc voilà, en tant qu'étape, la remorse spirituelle, c'est quand cette illusion tombe. On ne voit plus des choses fixes, on ne voit plus moi en tant que quelque chose de séparé. On voit une situation perceptuelle qui est en motion, qui est en changement, qui est en flux tout le temps, où il y a des choses qui apparaissent, des choses qui disparaissent. Il y a une expérience changeante sans cesse, où on n'a pas besoin de s'attacher à quoi que ce soit. Et la renaissance spirituelle, c'est la sens de libération et le nouvel être qui apparaît à ce moment-là. Et ça, c'est l'entrée dans le courant. Donc encore une fois, je trouve que cette idée d'entrer dans le courant, c'est une belle image parce que ça communique ce sens de fluidité qui est à ce moment-là. C'est une façon de vivre qui est fluide. Ouais, qui coule. Et là, on n'a plus besoin de faire un effort.